Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Les grands titres de ce mardi 14 septembre, la Nouvelle-Galles du Sud enregistre 1127 nouveaux cas locaux de Covid-19 et de décès. Le confinement de l'ACT prolongé de 4 semaines supplémentaires. Les employés australiens pourront bientôt recevoir un vaccin Covid-19 sur leur lieu de travail. La Nouvelle-Galles du Sud a enregistré 1127 nouveaux cas locaux de Covid-19 et 2 décès. Les décès incluent une femme dans la soixantaine de l'ouest de Sydney et un homme dans la cinquantaine de l'ouest de Sydney. Les banlieues avec le plus grand nombre de cas sont Auburn, Greenacre, Bankstown, Liverpool, Marylands, Punchbowl, Riverwood, Yaguna, Condell Park et St. Clair. Le docteur Jeremy McNulty de New South Wales Health a déclaré que les cas n'augmentaient pas aussi rapidement qu'ils l'avaient été.
It's really pleasing to see immunisation rates increasing so quickly. Cumberland, which has been a particular hardest hit area in Western New South Wales, has seen a rapid increase in immunisation rates in the last few weeks, and we're thinking that's probably been one of the reasons we have seen in recent days a flattening of the curve there.
Le grand moufti d'Australie a déclaré que personne ne devrait être refoulé des mosquées au motif qu'il n'était pas vacciné. Le docteur Ibrahim Abu Mohamed fait partie de plusieurs chefs religieux de la Nouvelle-Galles du Sud qui demandent une exemption des passeports vaccinaux. Il a dit sur SBS Arabic 24 que les religieux n'ont pas le pouvoir de demander aux fidèles une preuve de vaccination et de les éloigner des mosquées s'ils ne sont pas vaccinés.
Regarding the places of worship and access of people to them, we cannot sort out people on vaccination ground and tell them, if I'm vaccinated, don't come to pray, because we are not an executive authority. This is the jurisdiction of the executive, and that's why we cannot ask people not to come.
Le ministre de la Santé de Nouvelle-Galles du Sud, Brad Hazard, reste ferme sur la question, affirmant qu'une fois que l'État rouvrira et que les objectifs de vaccination auront été atteints, les fidèles devront présenter une preuve de vaccination. Le Victoria a enregistré 445 nouveaux cas locaux de Covid-19 et 2 autres décès. Quelques 129 des infections sont liées à des cas et à des épidémies connues à ce jour. Et le reste fait l'objet d'une enquête. 85% des cas actifs ont moins de 50 ans. L'État se rapproche de son objectif de première dose de 70% avec près de 67% des habitants du Victoria âgés de 16 ans et plus ayant eu leur première dose de vaccin. Le chef adjoint du Victoria, James Merlino, a annoncé un nouveau programme de soutien à la santé mentale de 22 millions de dollars pour ceux et celles qui souffrent pendant la pandémie.
We're always looking at what more that we can do. So today we're announcing a $22.1 million package of additional mental health support. The big element, $13.3 million, will deliver 20 pop-up community mental health services, 8 in regional Victoria, 12 in metropolitan Melbourne, and we'll have them progressively up and running from the end of this month.
L'ACT prolonge le verrouillage de 4 semaines supplémentaires jusqu'au 15 octobre prochain après avoir enregistré 22 nouveaux cas locaux de Covid-19 ce mardi. Le gouvernement étendra et élargira une gamme de mesures de soutien financier aux entreprises et aux collectivités. L'allègement de l'impôt sur les terres et des taux commerciaux précédemment annoncés seront désormais doublés et prolongés jusqu'au 30 décembre de cette année. Les concessions de services publics seront portées à 1 000 $ au cours de l'exercice en cours de 2021-2022. Et au cours des prochains jours, le gouvernement fera plus d'annonces concernant un financement supplémentaire pour la réponse à la crise sanitaire. Le ministre en chef, Andrew Barr, a déclaré que l'objectif principal était de reprendre les cours en face-à-face pour les étudiants dans les lycées.
Year 12 students who have had priority access to vaccinations over the last 2 weeks will return to on-campus learning from the start of term 4, that is Tuesday the 5th of October. Year 11 students will return to on-campus learning from week 3, Monday the 18th of October, subject to the health situation not deteriorating between now and then.
Le Queensland a enregistré un nouveau cas de COVID-19 acquis localement ce mardi. Il s'agit d'une étudiante de 15 ans au St. Thomas More College de Sunnybank, où deux autres étudiants et certains membres de leur famille ont également été testés positifs. La chef de la santé du Queensland, Dr. Janet Young, se dit convaincue que l'épidémie est sous contrôle.
Due to the fantastic contact tracing work and the superb work done by that family, that we've managed to get this outbreak controlled so quickly. But we know that we could have another case come into Queensland at any time, so could everyone please continue to do that work and come forward and get tested.
La première du Queensland, Anastasia Palaszczuk, a déclaré que Queensland Health avait administré près de 20 928 doses de vaccins.
We now have 56.68% have got one dose of vaccine and 38.33% are fully vaccinated. And of course, yesterday we started with our young teenagers, our 12 to 15-year-old children were eligible to receive the Pfizer. I can confirm that already 9,000 doses have been administered to children aged between 12 and 15.
La frontière dite dure entre le Queensland avec la majeure partie de la Nouvelle-Galles du Sud pourrait rester en place jusqu'à ce que l'État atteigne ses objectifs de couverture vaccinale. Le commissaire de police adjoint du Queensland a déclaré qu'il n'y avait pas de date claire pour laquelle les restrictions aux frontières s'assoupliraient. La frontière avec la Nouvelle-Galles du Sud est fermée depuis près de 2 mois en raison de l'épidémie de COVID-19 en cours dans cet État. Le Queensland accorde des exemptions spéciales aux résidents des communautés frontalières de la Nouvelle-Galles du Sud, aussi loin au sud près de la vallée de Clarence et aussi loin à l'ouest que dans les zones de gouvernement local de Moree Plains. Seuls les résidents de ces régions qui ont reçu une dose de vaccin et qui ne peuvent pas travailler ou aller à l'école doivent faire des achats essentiels ou prendre soin des personnes vulnérables sont autorisés à entrer dans le Queensland. L'Australie méridionale intensifie son programme de vaccination de masse car l'État n'enregistre aucun cas de coronavirus localement. La première clinique générale de vaccination sans rendez-vous de l'État a ouvert ses portes dans le centre commercial de Rundle à Adélaïde. Le ministre de la Santé, Stephen Wade, a déclaré que c'était formidable pour les gens qui font des courses dans les magasins, les travailleurs et les étudiants de la ville.
And not only will it be an opportunity for people to get their vaccination, it's a great opportunity to push this program right across the state. We are ramping up the mass vaccination program. We've had a record week last week with 100,000 doses. That's 100,000 doses last week, 100,000 doses the week before. We're now at 40% full vaccination.
Les employés australiens pourront bientôt recevoir un vaccin COVID-19 sur leur lieu de travail. Les fournisseurs pourront désormais demander une accréditation pour administrer le vaccin sur les lieux de travail, un peu comme le vaccin annuel contre la grippe. Pfizer et Moderna seront les principaux vaccins délivrés sur les lieux de travail, mais AstraZeneca sera proposé si nécessaire. Un prochain sommet le 24 septembre à Washington, où les premiers ministres de l'Inde, d'Australie et du Japon ont été invités. Le but est de renforcer les liens dans cette région face à la Chine. Le premier ministre israélien Naftali Bennett a rencontré le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi pour des entretiens sur les relations israélo-palestiniennes et les relations bilatérales. Il s'agit du premier voyage officiel d'un chef de gouvernement israélien en Égypte depuis une décennie. Naftali Bennett, qui a pris ses fonctions en juin, a été invité par le président Sissi le mois dernier. Depuis mai, l'Égypte a joué un rôle de premier plan en négociant et en essayant de renforcer un cessez-le-feu dans la bande de Gaza après 10 jours de conflit entre Israël et le Hamas qui contrôle l'enclave. Reportage de Sami Boukhelifa pour RFI.
Un premier ministre israélien reçu en Égypte, cela n'était pas arrivé depuis plus de 10 ans. Janvier 2011, l'Égypte était encore dirigée à l'époque par Hosni Moubarak, le raïs chassé du pouvoir quelques jours plus tard lors des printemps arabes. Une décennie s'est écoulée, un laps de temps durant lequel les relations entre les deux pays ont connu des hauts et des bas. Mais finalement, ces quelques dernières années ont surtout été marquées par une étroite coopération sécuritaire, et notamment la lutte contre les groupes terroristes dans le Sinaï. Mais aussi une coopération énergétique. Depuis 2020, l'État hébreu exporte son gaz vers l'Égypte. Fort de cette collaboration, les Égyptiens qui discutent également avec les responsables de l'autorité palestinienne et ceux du Hamas au pouvoir à Gaza, cherche à relancer les pourparlers de paix israélo-palestiniens. L'État hébreu, de son côté, vient de présenter un plan de réhabilitation de Gaza à condition que le Hamas s'engage au calme. Et Israël a besoin du soutien de l'Égypte pour atteindre son objectif.
Tous les vols avec à bord des Afghans évacués vers les États-Unis ont été interrompus pendant 7 jours supplémentaires depuis hier, lundi, à la demande des Centers for Disease Control and Prevention. Cela est dû à des cas de rougeole dans 3 bases américaines. Le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a déclaré que les 3 cas de rougeole avaient été diagnostiqués chez les Afghans arrivant à l'aéroport international de Dulles, en Virginie, un à Fort McCoy, dans le Wisconsin, et un à Fort Pickett, en Virginie. M. Kirby a déclaré que toutes les personnes évacuées recevaient tous les vaccins nécessaires, y compris contre la rougeole. Le prix du nickel et de l'aluminium qui flambe depuis la reprise économique, et c'est à cause de fortes demandes et une production insuffisante. Explication de Altine Lazage pour RFI.
Le prix de l'aluminium a atteint ce lundi 3 000 $ la tonne sur le marché des métaux de Londres. C'est son niveau plus haut depuis 2008. Cette envolée a été alimentée par les craintes d'un manque d'approvisionnement en raison du récent coup d'État en Guinée. Le pays d'Afrique est le 2e producteur mondial de bauxite, un minerai qui sert à la fabrication de ce métal. Mais ce qui a poussé les prix vers le haut ces dernières semaines, c'est surtout la réduction de l'offre chinoise. La Chine essaye en effet de maîtriser sa consommation d'électricité et a décidé de baisser la production des fonderies d'aluminium qui sont très énergivores. Le prix du nickel atteint aussi des sommets. Il a culminé vendredi 20 700 $ la tonne, le plus haut depuis mai 2014. L'offre mondiale est d'ailleurs insuffisante pour satisfaire la demande croissante en raison notamment de la transition énergétique. Cette dernière dope les besoins de ce métal utilisé pour la fabrication de certaines batteries électriques.
On passe à la météo pour ce mardi en Australie. À Perth, il fera 22 degrés. Adélaïde, 17 degrés. Melbourne, 15 degrés. Hobart, 14. À Canberra, il fera 15 degrés. Sydney, 18 degrés. Brisbane, 25. Cairns, 31. Darwin, 33. Et à Alice Springs, maximale de 30 degrés. Un rappel des grands titres de ce 14 septembre. La Nouvelle-Galles du Sud enregistre 1127 nouveaux cas locaux de Covid-19 et de décès. Le confinement de l'ACT prolongé de 4 semaines supplémentaires. Et puis les employés australiens pourront bientôt recevoir un vaccin Covid-19 sur leur lieu de travail. Fin du journal et merci de rester avec nous.
En français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. sbs.com/sbsfrench.
Journal des sports, et on débute avec du tennis. C'est la finale homme de l'US Open que vous avez pu suivre à l'antenne de SBS Télévision. Et bien oui, la victoire de Daniil Medvedev, le russe, très francophone d'ailleurs, victoire face à Novak Djokovic. On écoute Daniil Medvedev.
Well, first of all, I think it's the first time I'm so nervous saying my speech. I mean, first of all, I want to say sorry for you fans and Novak, because I mean, we all know what he was going for today. And I just want to say that, I mean, anyway, what, as you said, what you accomplished this year and throughout your career, I never said this to anybody, but I'll say it right now. For me, you are the greatest tennis player in the history.
Voilà donc Daniil Medvedev, et on revient sur la défaite de Novak Djokovic avec Hugo Moissonnier.
Pas de 21e sacre en grand chelem pour le Joker. Le sourire a laissé place à l'agacement et aux larmes en finale de l'US Open. Novak Djokovic, le Serbe largement dominé par le Russe Daniil Medvedev en 3 manches. 6-4, 6-4, 6-4. Premier sacre majeur pour Medvedev à 25 ans. Pour Djokovic, la déception, elle est immense, mais elle est en partie compensée par l'amour et le soutien du public hier.
Of course, part of me is very sad.
Bien sûr, je suis très triste. C'est difficile à avaler quand on sait tout ce qui était en jeu, mais d'un autre côté, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti, ici, à New York. Le public m'a donné quelque chose d'unique. Le soutien, l'énergie et l'amour que j'ai reçu des spectateurs, c'est quelque chose dont je me souviendrai toujours. C'est la raison pour laquelle, au moment du dernier changement de côté, j'ai pleuré. L'émotion était si forte. C'est aussi fort que de gagner 21 tournois du Grand Chelem. C'est ce que j'ai ressenti. En toute honnêteté, ils ont touché mon cœur.
Novak Djokovic qui reste le co-détenteur du record de Grand Chelem remporté, 20 en tout à égalité avec Roger Federer et Rafa Nadal.
Voilà donc pour le tennis et l'US Open donc que vous aviez pu suivre à l'antenne de SBS. Allez, on continue sur le tennis et on va parler des jeunes loups du tennis avec Antoine Grenier.
Bref, la jeune garde dans cette US Open, elle a montré qu'elle est plus très loin de prendre le pouvoir.
Elle est plus très loin maintenant. Ceux qui disent et qui répètent que quand il n'y aura plus Nadal, il n'y aura plus Federer, le tennis sera mort, c'est complètement faux. Et on le voit sur cette US Open. On a vécu des matchs incroyables. Le Tsitsipas-Alcaraz était tout simplement exceptionnel. Alcaraz n'a que 18 ans. Sinner, on a l'impression que ça fait des années qu'il est sur le circuit. Il n'a que 20 ans. Le jeune américain que personne connaissait il y a encore deux mois, Jason Brooksby, qui a 20 ans. Et puis chacun a sa personnalité, chacun a son style de jeu. Pour moi, c'est une certitude. Le tennis est loin, loin, loin d'être mort. Alors, effectivement, on perdra les deux monstres. Mais il faut pas oublier que derrière, il y a aussi Daniil Medvedev qui est présent. Et puis Djokovic est un peu plus jeune que Federer et Nadal. Et il faut aussi voir qu'il ne s'est jamais blessé. C'est ça qui est aussi très impressionnant et important. Federer a toujours eu un peu ses problèmes de dos. Nadal a eu ses problèmes de cheville, ses problèmes de genoux. Lui, Djokovic, ne se blesse jamais. Alors, il a potentiellement un professionnalisme exceptionnel. Il programme aussi son calendrier comme il le faut. Mais voilà, pour moi, le tennis va vivre encore des heures tout simplement fabuleuses.
Voilà donc pour les jeunes loups du tennis. Allez, on parle maintenant de Formule 1 et la victoire au Grand Prix ce week-end de Daniel Ricciardo sur sa McLaren. On écoute le champion australien.
I'm not saying it to make it seem bigger than it is, but it has been definitely. There's been days where it's been the most challenging of my career to date, and I don't know. To come back to this point to win. I don't know. I don't want to like speak of myself, but this result honestly feels unbelievable.
Allez, pour conclure, une fois n'est pas coutume, on va conclure avec du football et la Ligue 1, le point sur la Ligue 1 du week-end avec Hugo Moissonnier.
L'OL en progrès, ça se confirme. Succès 3-1 à domicile contre Strasbourg hier soir. Amorti poitrine, reprise pied gauche. Le premier but lyonnais est tout simplement superbe. L'œuvre du capitaine hier soir, Moussa Dembélé, avant-centre, en forme avec déjà 4 réalisations cette saison.
On est en pleine bourre et la saison elle est enfin lancée. Donc forcément, on tente et on joue ensemble collectivement, donc c'est important pour nous et qu'on continue comme ça. Je sais que j'ai des responsabilités, je sais que c'est le rôle de capitaine, c'est un rôle important, mais le brassard fait pas le capitaine. Voilà, je pense qu'il y a plusieurs leaders dans l'équipe et on essaie d'aider les uns les autres simplement et de pousser, tirer le groupe vers le haut.
Moussa Dembélé au micro d'Amazon Prime. L'OL 7e au classement, plus haut, victoire de Lens 5e, 3-2 à Bordeaux avec notamment un but du prix RFI Marcoé 2021 Gaël Kakuta, et puis Nice 4e est allé s'imposer sur le terrain de Nantes 2-0.
Voilà donc pour le sport pour aujourd'hui, on fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français et vous êtes sur Radio SBS. À tout de suite.
Et 27 minutes sur les ondes de SBS French et on retrouve maintenant Christophe qui cette fois-ci est en compagnie d'Emile Matassou pour nous présenter le journal de la semaine en France.
Vous pouvez nous écouter quand vous le souhaitez. Téléchargez émissions, interviews et actualités à la demande. Visitez la page sbs.com.au/french.
Allez, comme chaque mardi, on fait le point sur l'actualité en France. 7 jours d'actu en France avec Émile Matassou. Bonjour Émile.
Bonjour Christophe, bonjour à tous.
Alors à la une, et bien entendu, la candidature d'Anne Hidalgo à l'élection présidentielle de l'an prochain.
Anne Hidalgo, oui, maire de Paris depuis 2014, elle a officialisé sa candidature à l'élection présidentielle. Ce dimanche, elle veut être candidate, elle lance cette candidature à l'élection présidentielle qui va occuper la classe politique et les débats durant les 7 prochains mois. La présidentielle, premier tour le 10 avril 2022, second tour le 24 avril. Cette candidature d'Anne Hidalgo n'est pas une surprise, elle l'a préparée depuis des semaines et même des mois. Elle doit encore, dans les faits, être validée par le Parti Socialiste et il y aura peut-être une primaire, hein, mais c'est elle la candidate emblématique du PS, la maire de Paris qui avance avec cette étiquette socialiste. Mais ça y est, elle l'a officialisée dimanche en fin de matinée à Rouen, en Normandie. Aujourd'hui, je suis prête à lancer Anne Hidalgo. C'est pourquoi, humblement, j'ai décidé d'être candidate à la présidence de la République française. Je suis candidate, a-t-elle lancé, pour offrir un avenir à nos enfants, à tous nos enfants. Fin de citation. Elle a choisi Rouen pour donner ce coup d'envoi à sa campagne. Elle ne l'a pas fait depuis Paris, depuis son bureau de l'hôtel de ville. Et c'est là tout le défi qui l'attend. Il va falloir, aux yeux des Français, casser l'image de parisianisme, avec tous les sous-entendus qui vont avec. Hein. Voilà, 7 ans qu'elle est à la tête de la mairie de Paris, après avoir été l'adjointe de son prédécesseur, Bertrand Delanoë. Paris et ses élites, Paris et son prix de l'immobilier, Paris et ses bobos. Anne Hidalgo, oui, a mis des vélos dans Paris, mais ça ne suffit pas pour être présidente de la République. Elle s'adresse désormais à tous les Français. Dans son discours à Rouen, elle a mis en avant ses racines, elle dont les parents sont espagnols. Elle est née en Espagne en 1959. Ses parents qui ont émigré en France 3 ans plus tard, et ce n'est que 10 ans plus tard, en 1973, qu'elle a été naturalisée avec sa famille, avec ses parents naturalisés française. Aujourd'hui, a expliqué la candidate, aujourd'hui sur ce port de Rouen, je pense, a-t-elle dit, à mon père qui fut ouvrier sur le chantier naval de Cadix en Espagne. Donc, je Je pense aussi à ma mère, couturière, a continué Anne Hidalgo. Dans ce discours, elle a remercié cette France qui a donné sa chance à sa famille. Il y a 50 ans de cela, elle a tenu à replacer l'annonce de sa candidature dans ce contexte, s'adresser à la France ouvrière et donc, on le disait, à rappeler ses origines, ses racines, son histoire, casser cette image de l'élu parisienne, maire de la capitale.
Alors dans ce discours, Anne Hidalgo s'est tout de suite démarquée de l'action du président de la République.
Bien, elle s'est montrée très offensive. Le quinquennat qui s'achève devait unir les Français. Il les a divisés, comme jamais, a martelé Anne Hidalgo. Il devait régler les problèmes sociaux, il les a aggravé. Il devait protéger notre planète, il a tourné le dos à l'écologie. Voilà quelques extraits de son discours. Anne Hidalgo, qui n'a pas cité directement dans ses attaques Emmanuel Macron, mais d'entrée, elle a tenu à se démarquer de la politique gouvernementale et pour cause, hein, si elle lance sa candidature, si elle se lance dans cette présidentielle, c'est pour empêcher le chef de l'État d'être réélu. Emmanuel Macron, bien entendu, n'a pas encore dit qu'il se représente, mais il est déjà, bien sûr, en campagne. Il a pour lui d'être à l'Élysée, il est en position de force, mais pour tous les autres, tous ceux et celles qui veulent concourir à cette présidentielle de 2022, eh bien, ils doivent jouer carte sur table dès cette rentrée de septembre, dès maintenant occuper l'espace politique. Et ce qui est compliqué pour Anne Hidalgo, c'est de se démarquer clairement de la politique gouvernementale. N'oublions pas qu'Emmanuel Macron, il y a un peu plus de 5 ans de cela, il était encore au gouvernement, ministre de l'économie, sous la présidence de François Hollande, le socialiste. Alors oui, depuis, Emmanuel Macron a fait son chemin, il a tracé sa propre route, il a coupé les amarres avec François Hollande avant même la fin du quinquennat de ce dernier, en démissionnant du gouvernement. Il s'est lancé dans la présidentielle et il a coupé les ponts avec les socialistes, en se positionnant au centre du jeu politique, hein, ni de droite ni de gauche, mais de droite et de gauche. Et ses détracteurs diront même plutôt de droite que de gauche depuis le début de son quinquennat. Mais en tout cas, c'est comme cela qu'Emmanuel Macron a remporté la présidentielle de 2017. C'est comme cela qu'il a réussi à siphonner une partie de l'électorat du PS, mais aussi une partie de l'électorat de la droite et des Républicains. Aujourd'hui, gauche, droite, eh bien, les deux camps essaient de se reconstruire et de se trouver un avenir, un second souffle dans cet élan de la présidentielle. Anne Hidalgo, elle a choisi son camp, elle reste fidèle aux valeurs de gauche. Sa directrice de campagne a ainsi expliqué ce week-end sa volonté à Anne Hidalgo, très claire, de s'adresser aux classes moyennes et aux classes populaires et donc de parler aux travailleurs, aux salariés. À Rouen, dimanche, revenons-y à Anne Hidalgo qui est âgée de 62 ans. Elle était entourée de quelques figures sur lesquelles elle va s'appuyer durant sa campagne électorale. Le maire de Nancy, Mathieu Klein, le président de la région Seine-Saint-Denis ou encore la chef de file des députés PS, Valérie Rabault. La séquence a ainsi été pensée. Déclaration de candidature dimanche et dès cette semaine, la sortie de son livre « Une femme française » où elle décline dans ce livre eh bien, ses priorités, lutter contre les inégalités sociales, augmenter les salaires. Elle avance cette volonté de doubler en 5 ans, durée d'un quinquennat si elle est élue, le salaire des enseignants, des professeurs. Elle veut mettre au centre de toutes les décisions la transition énergétique, le respect de l'environnement. Anne Hidalgo, qui ne compte pas, hein, durant la durée de la campagne présidentielle, délaisser la mairie de Paris. Hein. Elle restera maire, souligne son entourage, comme Valérie Pécresse reste présidente de la région Île-de-France ou Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France. Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, qui font, eux, campagne au nom de la droite.
Mais oui, quel est l'espace politique dont dispose Anne Hidalgo? Comment, en fait, peut-elle trouver sa place dans cette présidentielle?
Bien, c'est toute la question et l'enjeu de cette candidature. Anne Hidalgo va-t-elle réussir à percer dans l'opinion? Car aujourd'hui, les instituts de sondage, eh bien, ils la créditent, l'édile maire de Paris, de moins de 10% des intentions de vote à la présidentielle. Loin, très loin du socle des deux grands favoris à l'heure actuelle, le chef de l'État Emmanuel Macron et Marine Le Pen, la candidate de l'extrême droite du Rassemblement national. Tous deux crédités de plus ou moins 25% d'intention de vote. Anne Hidalgo, elle part de très loin, sachant que vous avez aussi, on vient de l'évoquer, eh bien à droite, Valérie Pécresse, qui se voit pousser des ailes depuis quelques semaines dans les sondages. Elle a décollé autour de 15%. À droite, Xavier Bertrand n'a pas dit son dernier mot. Alors il n'y aura sans doute pas de place pour les deux, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand. Mais la droite, les Républicains, sont persuadés qu'ils ont les armes pour casser le remake de 2017, un deuxième tour de la présidentielle entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. La gauche, dans tout ça, elle semble avoir pris beaucoup de retard. Et aux yeux de l'opinion, bien la candidature d'Anne Hidalgo, elle pourrait être perçue comme une candidature de plus dans la cacophonie à gauche. Il y en a déjà beaucoup, des candidatures. Jean-Luc Mélenchon, s'est déclaré depuis longtemps pour la France insoumise, les Verts, les écologistes qui tiennent actuellement leur primaire et qui entendent bien, pour l'instant en tout cas, avoir et maintenir un candidat quoi qu'il arrive, le Parti communiste qui a aussi un candidat déclaré, vous avez aussi à l'extrême gauche Lutte ouvrière, le nouveau parti anticapitaliste qui seront là, même s'il ne s'agit que de quelques pourcents, 1, 2% par-ci, par-là, tout cela pèse, sans parler de la candidature en électron libre d'Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg, l'ancien ministre socialiste qui vient directement marcher sur les plates-bandes d'Anne Hidalgo. Loin d'être unie, la gauche est plus que jamais divisée à 7 mois d'élection présidentielle. Souvenons-nous qu'en 2017, lors de la dernière élection, Benoît Hamon, le candidat du PS, du Parti Socialiste, avait plafonné à 6% au premier tour. Anne Hidalgo va-t-elle réussir, elle, a adhéré et à convaincre les Français d'une façon beaucoup plus large? C'est tout l'enjeu des prochaines semaines, des prochains mois pour elle. Espérer que sa candidature décolle sur le terrain et dans les sondages.
Merci Émile d'avoir décrypté l'actu en France pour nous cette semaine.
Merci, merci. À bientôt.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Nous passons maintenant à la deuxième partie de l'interview sur le symposium Match 2021. Symposium 2021, c'est la Malaysia-Tunisia Cultural Heritage Symposium qui a eu lieu le week-end dernier, qui avait pour objectif de partager le savoir des experts du patrimoine culturel à travers le monde et partager le travail interactif des visites virtuelles et sites web réalisés par des étudiants tunisiens et malaisiens. Notre collègue Bertrand s'est entretenu donc avec le docteur Majdi Fallet du Hub Tunisie de Engage et avec le docteur Malek Latoui, architecte et enseignant à l'école polytechnique Sousse en Tunisie.
Les grands bâtiments, ça fait partie de la puissance d'un pays, c'est de pouvoir montrer qu'on est capable d'ériger des gratte-ciel et des grands édifices en béton et en fer. C'est la modernité, entre guillemets. Ces autres richesses culturelles, comme celles dont vous avez évoqué en Tunisie, qui datent peut-être même de l'ère ottoman et même avant cela.
Même avant du 6e siècle. 7e siècle, même avant. Ouais.
Il y en a même de la période romaine, en fait. En effet, finalement, la Tunisie est imbibée d'histoire, en effet. Il y a plein de monuments qui datent de cette période-là, comme par exemple les aqueducs de Carthage, qui ramènent l'eau d'une ville qui est Zaroun vers Carthage. Et puis qui a été détourné pour alimenter la médina de Tunis en haut. Déjà, ce monument-là est l'un des plus longs. C'est le deuxième sur le plan mondial de point de vue longueur. Il s'étend sur des centaines de kilomètres. Et il y a plein d'autres, finalement. Les origines des villes, c'est des origines puniques et même romaines. Et puis, beaucoup de civilisations sont passées par la Tunisie et il y en a les traces dans tout ce qui est bâtiment, même coutume et tradition, en effet.
Si je me permets d'ajouter un petit détail par rapport à la culture, ou par rapport à l'héritage romain en Tunisie, là où je suis né, à la ville de Sbitla, on appelle Soufaïtla, donc c'est une ville romaine, on trouve même les vestiges du site romain qui est bien protégé, proprement protégé, je l'espère aujourd'hui aussi. Et il y a les arcs de triomphe qu'on voit à travers d'autres civilisations romaines à travers le monde. Donc on voit ça. On voit aussi à la ville El Jam. Donc il y a l'amphithéâtre d'El Jam qui est un des, je crois, le troisième le plus grand au monde après celui de Rome, si je me trompe pas. Donc il y a ces vestiges matériels. Immatériel aussi, il y a la culture aussi autour, il y a les chants, les traditions, etc. Qu'on essaie de protéger, nous, enseignants, chercheurs, architectes, travaillent sur l'héritage, on essaie de sensibiliser les étudiants par rapport à ça. Les étudiants de Rive, pour qu'ils apprennent que c'est un héritage, un patrimoine qui doit être protégé, mais c'est un patrimoine universel, c'est un patrimoine pour l'humanité. C'est vrai que c'est ce patrimoine bien localisé dans une région, dans une ville, mais c'est un patrimoine universel. Donc la responsabilité des parties, des étudiants des deux rives, d'apprendre en premier lieu, apprendre les leçons de l'héritage des deux rives ou de plusieurs rives, l'Afrique et l'Asie, ce sont deux mondes à part. En même temps, c'est la première étape, sensibiliser, apprendre, et après ça se transmet d'une génération à une autre.
D'un point de vue du public moyen, moi je vois l'attrait touristique et aussi un certain danger, c'est que quand on vulgarise ce genre de patrimoine, ça attire le tourisme de masse, d'où cet aspect lame à double tranchant dans la mesure où le tourisme de masse va quand même influer négativement sur ces patrimoines si on ne les protège pas assez. Ça se voit sur Venise, il y a une destruction de ces patrimoines.
En effet, ça c'est vrai, mais réellement, en parallèle avec l'attraction des touristes aussi, il faut qu'il y ait finalement des notions et des actions de protection du patrimoine. Parce que finalement, si on ne protège pas notre patrimoine, il va disparaître tôt ou tard, sans ou avec la présence de touristes. Les problèmes s'il y a des tremblements de terre, des vents ou bien de l'eau, des écoulements d'eau fortes, etc., ça pourrait bien éventuellement dégrader le patrimoine. Mais avec tout ça, il faut qu'il y ait, en parallèle avec l'attraction du touriste pour venir voir les bâtiments, etc., ce qui est légitime finalement, parce que le patrimoine n'appartient pas justement à une seule région, à la Tunisie bien particulièrement, mais il appartient à tout le monde. Donc, il faut qu'il y ait des actions de protection. Et là, il y a des techniques bien particulières pour conserver les bâtiments avec les matériaux de construction utilisés. Il y a des techniques pour la conservation.
Et quels sont les objectifs à partir de ce symposium? Quelle est la suite attendue de ce symposium?
Oui, bon, en effet, je vais m'étaler un peu sur ce point-là. Donc, le symposium en lui-même est le fruit d'un travail colossal d'un mois et demi visant à exposer les travaux d'étudiants de deux pays, de deux hémisphères, est et ouest de la planète. Donc, il va y avoir aussi, aujourd'hui, il y a eu lieu la première journée de ce symposium et puis pendant les deux journées qui suivent. Il va y avoir la présence de chercheurs internationaux chevronnés, surtout des deux pays, Tunisie et Malaisie. C'est un projet, en effet, de partenariat qui permet encore aux étudiants d'approfondir leurs connaissances sur l'optimisation des images, des aspects et des valeurs du patrimoine dans le contexte des deux pays partenaires en plus particulièrement. Je vais m'étaler un peu plus sur les objectifs majeurs qui se concentrent sur quatre grands points. Donc, en premier lieu, c'est de fournir une plateforme de discussion et de partage de connaissances entre les institutions internationales et universitaires sur la base de développement de problèmes du patrimoine entre le passé et puis le présent et bien sûr le futur, ainsi que l'application de la technologie pour la gestion du patrimoine et des préoccupations socioculturelles entre la Tunisie et la Malaisie en particulier pour ce symposium-là. Donc ça, c'est le premier point. Bon, le deuxième point, c'est l'établissement d'une bonne connexion entre les institutions des différents pays, ce qui peut créer des opportunités de collaboration et d'échange mutuel pour les enseignants, pour les étudiants, pour les universités et même pour les citoyens en gros. Donc le troisième point, c'est de diffuser les résultats qui fait participer les étudiants. Cet événement-là ou ce symposium, il a été pratiquement en grande partie organisé par les étudiants. C'est pour leur inviter, pour les inciter à être actifs et de ne pas être passifs, juste de prendre les informations sans pour autant être actifs. Cet événement-là, il a fait l'objet, il était un partenariat entre des universités tunisiennes et des universités, l'université malaisienne. Donc, espérons qu'au futur, ça va toucher encore plus d'universités dans toute la planète, en effet. Donc, le dernier et le quatrième point, c'est d'optimiser les opportunités d'enseignement et d'apprentissage en ligne vers un autre palier. Parce que là, on n'est pas réellement habitué à faire des enseignements ou bien des symposiums en ligne. C'est tout nouveau, ça date au maximum d'une année à cause de la pandémie COVID-19. Et puis, ça va nous amener à alimenter, à faire des possibilités d'échange virtuel et d'échange de connaissances entre les institutions internationales et ainsi permettre aux étudiants d'apprendre à organiser des événements sur le plan formel, à travers des plateformes en ligne pour la communauté des différents, surtout, fuseaux horaires. Donc, pour cette fois-ci, ça a touché à deux fuseaux différents. Espérons que pour le futur, ça va toucher tout le monde.
Mis à part la réflexion sur l'héritage, sur les connaissances, les compétences qu'on peut développer et la sensibilisation par rapport à l'héritage, un des buts que j'avais en premier lieu en pensant à cette idée, en pensant à cette idée avec ma collègue professeur Khalila Zakaria de IOM à Kuala Lumpur, c'était l'idée de s'ouvrir sur le monde anglo-saxon, le monde anglophone. C'est en particulier par rapport aux écoles d'architecture en Tunisie, par rapport aux architectes, etc. Ça manque beaucoup, ça manque énormément. Là, on parle en français, bien sûr. On est francophone, mais l'ouverture sur le monde anglophone est quasi j'allais dire inexistante, mais oui, quasi inexistante entre les écoles d'architecture en particulier en Tunisie, Malaisie, etc., Indonésie, Australie, notamment l'Australie, là où j'ai vécu pendant plusieurs années. Ces collaborations-là rarement existent. En Australie, par exemple, vu que j'ai travaillé dans plusieurs universités, je sais que ça existe dans le domaine des sciences politiques, sciences sociales, à la limite entre des universités tunisiennes et Deakin University, Monash University, mais ça reste dans ce cadre. J'ai jamais vu une collaboration entre les écoles d'architecture en Afrique, en Tunisie, disons, et même en Afrique, ça reste limité. L'Afrique et l'Australie, par exemple. Donc, j'ai toujours eu cette idée de, on a eu comme en travaillant en équipe, une telle collaboration en ce moment est bien nécessaire pour établir d'autres connexions et espérons dans un futur proche que ça va s'étaler sur d'autres pays comme Melek a mentionné, notamment l'Australie, là où j'ai mon réseau à travers les universités. Donc il y a un intérêt. Espérons que qu'on va collaborer avec l'Australie avant ou après le COVID-19 pour établir cette connexion, parce qu'il y a beaucoup d'intérêt pour apprendre l'héritage de l'autre, pour faire des recherches sur l'héritage de l'autre, etc.
Voilà, on est à court de temps. Merci infiniment d'avoir pris le temps de nous expliquer ce projet et ce symposium qui est vraiment fantastique.
Merci à vous, Bertrand. Si je me permets, une salutation aux conférenciers internationaux, notamment professeur Gamal Abdelmonem, docteur Rouhaya Dr. Ons, Dr. Putri, etc., Dr. Hanis, Dr. Haza, Dr. Noshen, Dr. Asma, and Dr. Maliki parmi nous. Mais en particulier, je tiens à, je considère que les personnalités, vous m'avez demandé par rapport aux personnalités de cet événement, ce qui sont au cœur sont les étudiants. Donc, les étudiants malaisiens et tunisiens ont travaillé bel et bien très sérieusement pendant un mois et demi. Les perles rares qui ont travaillé jour et nuit pour créer des visites virtuelles, des sites web, organiser l'événement et même pour faire l'organisation de la conférence même. Si vous cherchez les opportunités, allez au-delà de vos limites géographiques et politiques et même économiques, culturelles. Découvrez d'autres mondes, postulez, faites de nouvelles connaissances avec des enseignants, chercheurs, professeurs, professionnels. Ne laissez pas le cadre là où vous vivez avec toutes ces complexités qui existent, vous limitez. Donc voilà, c'est mon message et merci SBS français encore une fois.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où où vous obtenez vos podcasts.
Nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Prochain rendez-vous, c'est jeudi à partir de 13h sur les ondes de SBS French. Très belle fin d'après-midi. À très bientôt. Et je vous laisse en compagnie de Holly Seas qui nous interprète « Thank you all, I'm fine ». Elle était l'invitée du journal de France 2 dimanche soir. Maybe you're too old. Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.